Bonjour Fred.
Bonjour Déborah.
Donc tu es venu avec un invité.
Mais oui, merci. Merci en tout cas de nous accueillir dans un Midi Express du vendredi. Ça, c'est providentiel parce que idéalement, on aurait bien présenté ça longuement ce soir dans Source, comme d'autres vendredis. Mais voilà, merci de nous prêter ce petit bout d'antenne pour annoncer quand même un grand événement. C'est que ce dimanche, à la Poissonnerie, grand lieu collaboratif de Skerbeek à la rue du Progrès, sera donc lancée la présentation de la fameuse brique.
C'est marrant parce que moi je connais un journal qui s'appelle La Brique dans le nord de la France, mais ça n'a rien à voir.
Pas encore, mais ça pourrait être lié à un moment donné.
Oui. On peut faire des liens.
Voilà, donc vous reconnaîtrez la voix de Laurent, hein, alias Brahms. Bien le bonjour, j'allais dire bonsoir en fait.
C'est l'habitude.
Oui, ouais, petite habitude comme ça des vendredis du logiciel libre, de l'énergie libre, de licences libres. Enfin
du monde du libre.
Du monde du libre, je trouve qu'à l'Université libre de Bruxelles, ça a tout son sens. Mais donc voilà, on va vous mettre dans l'oreille l'envie de vous déplacer jusqu'à la Poissonnerie ce dimanche à 14h, parce qu'on l'a annoncé déjà peut-être deux fois, on l'a annoncé, et là maintenant, elle est là. La brique inter.net, elle existe, elle est en 3D, vous pouvez vous l'approprier et ramener un peu de liberté dans votre vie informatique.
C'est quoi ? Parce que quand on n'écoute pas Source, eh bien, on ne peut pas savoir.
Voilà, mais c'était le teaser.
Ah, là, c'était le teaser.
Oui, ils le font très bien sur YouTube, mais là en radio, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, donc la brique, Laurent, un petit rappel pour les auditeurs qui n'auraient pas été à notre écoute ce dernier vendredi soir à Source.
Bah oui, la brique Internet, en fait, ça remonte encore plus loin. C'est vraiment un désir qu'on avait depuis une dizaine d'années dans le monde du logiciel libre. Ça part d'un constat, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a une double surveillance. Il y a une surveillance qui est en fait qui vient des acteurs privés, en fait, qui sont sur Internet. Donc Google, Facebook, Amazon, etc., tous les sites web dans lesquels on va mettre nos données, qui est quelque chose qui est assez nouveau en fait dans l'histoire d'Internet. Avant, les gens, chez eux, avaient leur propre email, avaient leur propre service sur leur machine à la maison, et c'est quelque chose qui a complètement disparu. Et une des raisons pour lesquelles ça a disparu, c'est la complexité technique de pourquoi est-ce que c'est dur de faire ça. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation très fréquente de la surveillance, pas privée cette fois-ci, la surveillance publique par les États. Donc au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, on pense en tout cas au projet de loi renseignement en France, où ils veulent mettre des boîtes noires chez les FAI avec des algorithmes pour détecter les djihadistes et les gens qui s'auto-radicalisent sur Internet.
C'est ça, donc on a encore plus efficacement surveiller le trafic sur Internet, et donc nous sommes potentiellement tous dangereux.
Donc voilà. C'est pour les djihadistes, on peut continuer à télécharger illégalement, ça on peut continuer à faire.
Oui,
on continue à partager des fichiers, oui.
C'est contre les djihadistes, attention, il paraît.
Oui. Et donc la brique Internet, en fait, c'est une solution à ces deux problèmes, à ces deux enjeux. C'est en fait dans la continuité d'un projet qui avait été lancé par Eben Moglen, qui a dit aujourd'hui, bah, pour résoudre ces solutions-là, il faut qu'on fasse la Freedom Box, il faut qu'on fasse la boîte de la liberté, qui serait un tout petit serveur extrêmement simple que tu donnerais aux gens, qui ramènerais chez eux, qui brancherais sur leur modem, et pouf, ils auraient un serveur pour s'auto-héberger avec une interface extrêmement simple pour gérer leurs mails, pour gérer des sites web qu'ils ont envie, pour mettre leurs photos, pour pouvoir les partager avec leurs amis, avec du backup automatique, avec tout plein de choses. Et c'est un fantasme qu'il avait lancé il y a à peu près 4 ans. Comme tous les projets qui sont lancés sans avoir quoi que ce soit derrière, ça n'a pour l'instant pas marché. Et on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, nous, on avait tout ce qu'il fallait pour faire marcher ça, et on y arrivait. On a maintenant ce petit serveur que les gens peuvent brancher chez eux, qui leur permet de gérer leur mail, qui marche facilement, qui est une interface web tout à fait accessible, il n'y a pas besoin d'être un informaticien. Bon. Pour l'instant, on en est encore au stade où il faut à peu près s'intéresser à l'informatique pour réussir à y arriver, mais c'est vraiment un grand pas par rapport à avant. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la surveillance privée. Donc pour se réapproprier ses données, pour plus mettre ses emails chez YouTube, qui est chez Google, qui est à peu près aussi intelligent qu'en fait laisser sa boîte courrier postale au supermarché ou dans une grosse boîte comme ça.
Oui, c'est ça. Qui ou vous alors dira avoir une boîte à lettres sur sa porte, mais en fait laisser la porte ouverte.
Aussi, tout à
donc
fait.
Donc le facteur dépose les lettres pour vous, mais en fait, qui passe devant peut les prendre, les ouvrir, les lire. Enfin, déjà, la carte postale par rapport à la lettre dans une enveloppe, on a ces deux niveaux de confidentialité dans notre courrier, et le secret de la correspondance est garanti par la Constitution belge.
Oui, tout à fait. Le secret des postes.
Le secret des postes, oui, tout à fait. Donc, analogique. Mais dans le numérique, par contre, il n'y a plus rien.
Ah non, donc là, on est tous à poil dans le numérique. C'est un peu une catastrophe. Les privés ont déjà commencé à faire ça. Et l'État est très content de nous rattraper. Très inspiré, en tout cas, en France, par les épisodes Snowden. Au lieu de se dire, nous allons protéger nos citoyens, on dit, on va faire comme les Américains. Et pour résoudre ce problème-là, la BRIC, en fait, utilise une technologie, donc un nom un petit peu compliqué, qui est VPN. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est surtout que c'est une technologie qui va connecter cette BRIC par un tunnel chiffré jusqu'au serveur donc de Neutrinet, qui est l'association, une ASBL qui distribue ces briques. Et donc, la communication qui sera entre la brique et le serveur de Neutrinet sera entièrement chiffrée, donc ne sera pas du tout lisible par les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, si jamais on veut faire la surveillance au niveau du fournisseur d'accès à Internet, on sera protégé à ce niveau-là. Et la brique, en fait, vient avec une petite antenne Wi-Fi. Donc, si vous voulez aussi vous profiter sur vos machines personnelles de ce chiffrement, il suffit de connecter vos ordinateurs en Wi-Fi au Wi-Fi qui est émis par cette brique-là. Et donc, votre fournisseur d'accès Internet ne sera plus du tout capable de lire vos connexions à ce moment-là.
Mmh. Et la notion de vie privée reprend tout son sens.
Voilà.
De manière générale.
Et c'est tout l'intérêt, tout le jeu, en fait, c'est de changer son rapport par rapport à l'informatique, quoi, au niveau des données. Là où on peut retrouver Linux, qui a un changement par rapport au programme qu'on installe sur nos machines, là on a un changement de rapport par rapport à notre vie sur Internet, à notre vie sur le réseau.
C'est ça, et il y a le fait aussi donc, de passer par Neutrinet, qui est un fournisseur d'accès Internet libératoire ou libérateur, en tout cas ici sur la Belgique, à l'instar de, en France,
FDN.
Il y a FDN qui est quand même déjà sur le carreau depuis pas mal d'années.
FDN est le plus vieux fournisseur d'accès Internet français, avant Orange. Donc ils sont vraiment extrêmement vieux. Donc il y a tout un mouvement en fait en France, ils sont en fédération, on est à peu près une trentaine maintenant, Neutrinet en fait partie, de fournisseurs d'accès Internet qui veulent un rapport différent à Internet. C'est un des fournisseurs d'accès dans lesquels on est membre, on n'est pas
client,
un client, ouais. on fait partie de la vie de l'association. Un peu comme... pourrait dire que ce serait un penchant sur Internet à ce que sont les GAZAP ou les AMAP par rapport à l'alimentation. Ce serait à peu près les circuits courts.
C'est le panier bio d'Internet.
Voilà, les paniers bio. On aurait chacun notre petit panier de légumes, et là on a un panier de paquets numériques. Et garanti, en tout cas, non sniffé, non épillé.
Oui, et puis c'est un panier dans lequel vous avez une voix, vous êtes membre. Donc si vous faites partie de l'association, vous faites partie de la vie de l'association, et c'est à vous de décider avec les gens de l'association qu'est-ce que vous voulez en faire.
Ok.
Et comment on les trouve en Belgique
Les briques
Non, les Neutri...
Le Neutrinet.
Ouais.
Le Neutrinet, comment on vous trouve en Belgique, c'est ça
Voilà, on voit tout. Enfin, donc c'est l'équivalent. Là, je suis dans ma phase, je pose des bêtes questions. Hein. Donc c'est l'équivalent en fait de vous ou de Telenet ou de Belgacom. Mais non pas pignon sur rue, parce que c'est pas un fournisseur qu'on connaît vraiment.
Oui, c'est assez jeune pour l'instant, donc on n'est pas encore capable de fournir tout ce que propose un fournisseur classique. Ils vont te fournir de l'Internet à la maison, ce genre de choses-là. Ce n'est pas encore quelque chose que nous, on est capable de faire. On est petit, on est en train de se lancer, appuyé par la fédération. Et donc, pour l'instant, c'est encore à peu près intimiste. Mais la brique, en fait, est un peu le grand lancement public de Neutrinet, parce qu'avant, on pouvait proposer uniquement du VPN qui donne une IP publique, etc. Donc, plein de choses qui ne parlent pas du tout aux gens.
C'est plus un service qu'un réseau, maintenant. Matériellement parlant, vous, à placer des kilomètres de câbles le long des façades, parce qu'ils filaient la télédistribution avant, et maintenant, ils font passer Internet dedans. On peut voir avec Telenet, par exemple, qui, eux, ont aussi leur réseau télédistribution, mais qui ont aussi un réseau de GSM. Or, Telenet n'a pas placé d'antenne GSM sur les toits, ils utilisent le réseau que Mobistar avait déjà installé. Et donc voilà, ils proposent un service, mais pas vraiment une infrastructure filaire matérielle.
Oui, non, pas encore.
Pas encore.
C'est bon. Bientôt,
Neutrinet va placer des kilomètres de fibre optique libre en dessous des trottoirs.
Ah oui, on rêverait de faire ça, c'est quand on aura des millions, on sera génial. Mais pour l'instant, on n'est pas encore en train de faire ça.
Alors la brique, on peut la trouver et s'affilier donc auprès de Neutrinet à ce moment-là.
Ouais, ce sera en fait le mieux, le plus simple pour découvrir la brique, c'est donc de venir ce dimanche à la poissonnerie, comme l'a annoncé Fred. Et à ce moment-là, on fera une présentation, on vous montrera ce que c'est, vous pourrez faire passer une commande à ce moment-là.
Il y a et projection de vidéo aussi, hein, pour éviter ce genre de discours parfois un petit peu capillotracté. Il y aura effectivement une vidéo, il y en a déjà une sur le site de la brique. inter.net.
Oui.
Si, mais ne la regardez pas maintenant, s'il vous plaît, parce que comme on va la passer dimanche, si vous la regardez maintenant, vous l'aurez vu deux fois. Mais par contre, vous pouvez déjà la voir maintenant pour préparer vos questions pour dimanche prochain.
Ah oui, tout à fait. Et même peut-être qu'en le revoyant plusieurs fois, vous serez vraiment plus à l'aise et vous comprendrez mieux ce que c'est. Et il y a plein d'informations sur le site, oui. Mm-hmm. Et on passera d'autres vidéos de personnes assez connues dans le milieu qui vous font bien comprendre les enjeux de pourquoi est-ce que c'est important l'auto-hébergement, donc la réappropriation de vos données chez vous, sur un petit serveur à la maison. Pourquoi est-ce que la surveillance, qui malheureusement est de plus en plus présente, est à nouveau un autre enjeu. Et comment... La brique est une de ces, une approche, une des solutions à cette situation-là.
C'est ça, oui, parce que je lisais très récemment que Obama aux États-Unis a presque réussi à faire passer le Freedom Act, qui était un petit peu le retour de boomerang du Patriot Act, qui avait donc permis aux États-Unis de secrètement, enfin le plus secrètement possible avant Snowden, de dépiller tout ce qui se passait dans le monde, et pas uniquement au niveau du terrorisme, on était même au niveau espionnage Angela industriel, Merkel. Politique, Angela Merkel, enfin je veux dire, le fait de se dire maintenant on vit dans des super démocraties, super connectées avec un super outil démocratique, et en fait les outils qui sont mis en place dans la stratosphère sont de plus en plus espionnants.
Oui, c'est le double paradoxe d'Internet, quoi. On s'attendait à avoir un réseau libre pour tout le monde, et c'est le plus grand moyen d'espionnage du monde entier. Et aussi, c'est à la fois pour des raisons de surveillance et même pour des raisons mercantiles de publicité, ce qui était complètement insensé à l'époque.
Oui, c'est vrai qu'on a connu la RTBF sans pub et on a connu Internet sans pub. Enfin,
Internet sans pub, ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Ça n'a pas duré longtemps, mais...
Les annonceurs ont très vite compris le potentiel d'Internet.
Oui.
Ça a mis moins de temps sur Internet que sur la RTBF.
Moi je me souviens du premier modem 56K à l'Amour Fou, Place Renancoc, c'était le premier cybercafé. Dans la petite salle du fond, ils ont mis des ordinateurs et c'était vraiment les tout débuts. On était encore avec du 56 km/h. Alors que là maintenant, on fonctionne à du 3000 km/h fastoche. Mais à l'époque, c'était Internet, l'encyclopédie. On présentait Internet comme un endroit où on pouvait aller chercher plein d'informations, communiquer, envoyer des emails. On allait plus vite avec un email qu'avec une lettre par la poste, etc. Et puis ça s'est commercialisé tout doucement. Enfin, je dis quand même.
L'arrivée de la bulle Internet, qui était une belle blague aussi. Ça grossit. Internet devait être l'immense succès. Et puis, en fait, ils ont essayé de grossir trop vite. Et puis, ça a explosé. Et maintenant, ça continue à grossir aussi. Oui. Mm-hmm.
Donc voilà, pour la brique Internet à brancher à la maison, on peut donc se connecter par le câble au réseau Nutrinet. On a un Wi-Fi qu'on peut partager. Et là-dedans, donc, on peut héberger son courrier électronique. On a son adresse en radiocampus.be, plutôt qu'en radiocampus@gmail.com.
Voilà, donc du coup, quand on a une adresse Gmail, par exemple, ça ne fonctionne plus. Enfin, on ne sait pas... Oui, non, évidemment, puisque du coup, c'est hébergé par Google, donc ce n'est pas hébergé par le...
Voilà,
je pose des bêtes questions, hein, ça y est.
C'est très bien, écoute, elle n'est pas bête du tout. Pas bête du tout.
Donc parce du coup, il faut changer ses adresses internet aussi. Enfin voilà, il faut revoir vraiment, c'est comme tu disais, hein, Laurent, c'est revoir sa consommation d'internet en fait.
Oui, c'est ça, c'est un rapport qui est différent. Puis c'est aussi une réappropriation de son usage d'internet, une réappropriation des services qu'il faut rapatrier chez soi. Donc oui, il faudra changer d'adresse email, mais après bon...
Mais c'est pas qu'on change d'adresse, on en a une en plus.
On en a une en plus, oui.
Et puis, on peut aussi. Il y a moyen de configurer la brique, donc les applications ne sont pas encore prêtes pour ça, mais c'est le genre de besoin qui va venir après, pour aller chercher ses mails sur Gmail et les rapatrier sur sa brique, et donc les conserver dessus. Mm-hmm.
Et ça fait quelle capacité, un serveur comme ça, sur la brique ou une brique?
Donc, les caractéristiques qu'on a, c'est un petit peu technique. On a un dual core en ARM, donc c'est en fait un tout petit serveur avec. Tu mets un peu ce que tu veux dessus, quoi. Ouais. On a une carte SD de 16 gigas, mais si tu veux mettre 32 gigas, si tu veux mettre un disque dur dessus pour avoir plus de capacité, c'est très modulaire.
Mais c'est une petite boîte.
On est dans le format des Raspberry Pi, hein, grosso modo. Si vous voyez un petit peu ça, ça ressemble à un paquet de LM30 avec une antenne en plus et de quoi mettre de l'USB.
Oui, c'est tout à fait.
C'est énormément grand comme ça. Et ça consomme 5 watts.
Ouais. Et donc là, on peut mettre des cartes SD. Un disque dur pour augmenter la capacité, comme on veut. Quoi.
Et ça reste une recette de cuisine, c'est du logiciel libre. Dire nous, on vous fait un beau package qui serait une belle brique que vous arriverez, vous brancherez chez vous et ça marchera. Mais si vous avez envie de bidouiller, si vous avez envie de dire moi j'ai envie d'avoir un autre truc, ou un serveur plus gros ou des disques durs, c'est du logiciel libre, vous pouvez complètement adapter. Ce sera votre brique à vous, vous serez entièrement propriétaire et vous ferez ce que vous voudrez avec. Quoi.
Facebook là-dessus?
Alors, donc, il y a un réseau social alternatif à Facebook, En fait, le problème de tous ces, de toutes les plateformes comme Facebook, comme Google, etc., c'est ce qu'on appelle des silos. C'est des plateformes qui contrôlent le logiciel et gardent tout chez eux. Et donc, c'est soit t'es chez eux, soit t'as rien. Mais il y a des alternatives qui existent. Il y a par exemple Diaspora, qui est un réseau social décentralisé, donc on peut installer sur sa brique, qui, en fait, chacun ayant une partie du réseau sur sa brique, ou sur son serveur, ou sur d'autres machines, donc chacun pourra à ce moment-là communiquer avec ces autres parties-là.
Mmh. J'ai l'impression d'être l'impératrice de la société de consommation avec mes questions là. Facebook, j'aimais le ça.
Si on remonte un petit peu au même début de la phase Internet, je sais qu'il y avait des grandes discussions, attention à la pensée unique, Global Village, grande menace, etc. Et en fait, maintenant, on ne pense plus que par Gmail, Twitter, etc. Donc, ce n'était pas une mise en garde à l'époque, c'était une façon de préparer les mentalités, peut-être de manière cynique. Mais bon, voilà, dans un agenda culturel, on peut se permettre, effectivement.
On peut aussi inverser la tendance.
Et voilà.
Après, là, je vais me faire l'avocat du diable, ça ne va pas être évident, quand même, d'inverser la tendance. Après, il y a des personnes qui sont persuadées de ce fonctionnement, enfin voilà, et qui rentrent dans cette façon, cette nouvelle façon de penser, mm-hmm. quelque part. Après, la masse, je sais pas comment.
Oui, mais je crois qu'on en est au même niveau, de manière plus vitale, en tout cas au niveau de l'alimentation. On parle des paniers bio, des gazables, des amas, etc. Il y a le fait de continuer à manger la nourriture qui est imprégnée des produits provenant d'usines comme Monsanto, par exemple, et se dire waouh, je suis en bonne santé, ou pas. Et donc, si on trouve que Monsanto n'a pas énormément bien atteint son objectif, d'abord de nourrir toute la planète et puis surtout de la maintenir en vie, parce que s'alimenter, c'est quand même vital, n'ayons pas peur des mots, on a l'opportunité de basculer vers l'alimentation un peu plus saine, un peu plus raisonnée, un peu plus permacultivée et de rentrer dans le monde du bio. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même deux poids et deux mesures entre continuer à se polluer et à s'empoisonner. Ou à se respecter un petit peu, mais je crois qu'au niveau binaire et numérique, il y a le fait de continuer à empoisonner notre idée de la démocratie, notre idée du respect de la vie privée, en fonçant toujours chez Facebook, en fonçant toujours chez Twitter, et on n'arrête pas de le répéter. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu ce côté concon chez l'humain en général, mais le fait de surtout de sortir d'un isolement, ça veut dire la notion de brique, enfin en tout cas l'image de la brique, c'est de dire qu'il y a une nouvelle construction qui est en train de se faire avec une nouvelle citoyenneté numérique, enfin, c'est en tout cas mon point de vue par rapport à ça. Mais on sort de l'isolement, on n'est plus tout seul devant son ordi avec son clavier, sa souris et son compte Twitter ou son compte Facebook, dans lequel on croit qu'on est en contact avec des gens, mais là on est à un niveau beaucoup plus nutritionnellement parlant, la philosophie du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire est assez incomparable. Le gars de Monsanto là, qui faisait le lobby et qui n'a pas voulu boire du Roundup.
Qui
disait que c'était splendide, ça n'a absolument rien de dangereux.
Aucun problème sur la santé.
Hein, ouais. Voilà. Mais il n'a quand même pas voulu en boire.
Bah non, mais il n'a pas soif à ce moment-là. Enfin, Fred,
ouais,
on ne boit pas sur commande.
C'est pas des boissons soif hein, chez Monsanto. Ouais.
Et peut-être pour reprendre le parallèle qui a été fait aux AMAP, c'est comme les AMAP au début où il y avait quelques paniers bio et ça grandit de plus en plus. Ici, on est aux prémices de ce genre de solution. Donc la solution, on a réussi à la faire marcher il y a quelques semaines à peine. Donc c'est vraiment le début et ça va grandir. Il y a de plus en plus de gens qui vont l'adapter. Neutrinet n'a pas vocation à être la seule et unique distributeur de ce genre de solution. En France, ils sont plusieurs FAI à faire ça chacun dans leur coin. Et même plus personnellement par rapport à vous, rien vous empêche, quand vous mangez dans un panier bio, de continuer à aller au supermarché après. C'est pas binaire, c'est pas une transition totale d'un coup.
Oui,
vous pouvez commencer à avoir une brique, avoir vos emails dessus ou pas, ou avoir d'autres informations dessus, avoir d'autres sites web dessus, peut-être mettre uniquement vos photos, peut-être mettre uniquement votre blog. C'est propre à vous, c'est propre à ce que vous avez envie de faire.
Autre bête question, ça y est, j'en ai une.
Je
après tout ce qui est sur cette brique, donc sur ce serveur finalement personnel, peut être vu par tout le monde sur Internet.
Oui.
Enfin, suivant ce qu'on a envie qu'il soit visible ou pas. Et donc, il n'y a pas de restriction. Il ne faut pas être sous Linux ou avoir une brique. Ou ça peut après partir n'importe.
Dans l'idée qu'on ne pouvait communiquer que de brique à brique.
Ouais, par exemple.
Non.
Ça peut être publié sur Internet, enfin, sur l'Internet avec un grand I.
Oui.
Ah oui, ta brique, quand tu la branches, tu es sur Internet, tu as ton site, enfin, tu as une adresse, il y aura une adresse web que tu choisiras. Donc une adresse soit un sous-domaine en .noos.mi, si tu n'as pas spécialement envie de payer, soit tu prendras ton nom de domaine et tu le mettras sur ta brique.
Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est juste, voilà, c'est vraiment son serveur à domicile, à soi, et on décide de ce qui est dedans, de ce qui est...
Totalement.
Oui. Et puis ça peut être, on peut aussi héberger certains de ses copains. J'avais monté ma brique, bon, je l'ai démontée pour retravailler dessus, mais j'avais laissé une copine utiliser des emails dessus. Donc c'est... Ça peut être même à l'échelle d'une famille, ça peut être à l'échelle d'un groupe de potes.
Bah, du coup, finalement, après, d'une organisation, d'une asso, puis pourquoi pas d'une entreprise.
Oui, tout à fait. Mmh.
La seule limite, c'est votre imagination, comme disaient les autres. Hein.
C'est encore un peu jeune, mais dans un truc qui, en tout cas, personnellement, m'intéresserait vraiment, c'est d'offrir la brique, en tout cas de proposer la brique comme une solution entière pour une association. De dire, bah, t'as besoin, généralement, une association a besoin d'un site, elle a besoin d'un logiciel de comptabilité. Donc en Belgique, nous avons PHP Compta qui s'appelle Noalis maintenant. Elle a besoin de listes de discussion, elle a besoin de tout un tas de choses. Et donc ce serait voir comment travailler avec des associations pour leur dire, bah, écoutez, on améliore les capacités de la brique au point que ce soit une solution que j'ai en main pour vous.
Eh ben, on peut être Kobe, hein, Radio Campus.
Ben oui, et même, voilà, et pour les Kobe, il y aura de toute façon des endroits où on va, le groupe d'utilisateurs Linux de Bruxelles, BXLUG, va se faire un plaisir d'accueillir les gens qui viendraient avec leur brique et de leur donner un coup de pouce pour régler et surtout pour domestiquer et apprivoiser. Hein, on va dire dans l'autre sens, apprivoiser et puis domestiquer.
Alors, le truc, là, ça coûte combien ? Oh, parce que ça, on a... ouais,
c'est... Alors, oui. Oui. C'est du matériel, peut-être pas utiliser les termes techniques. Pour l'instant, on arrive à avoir la brique autour de 60-65 euros. Et après, on a besoin d'un abonnement VPN qui est pour l'instant à un prix de 8 euros par mois. Donc c'est un prix libre, le minimum est de 8 euros par mois. Et ça inclut la cotisation pour être membre de l'association, qui est en fait de 25 euros par an. Donc ça fait 12 euros. Non, ça fait 12 mois. Donc 2 euros tous les mois pour atteindre 24 euros.
Mmh. Ah ouais, bah c'est rien. Enfin, c'est pas
énorme.
Bah, oui. Le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre.
Ah bah carrément, ouais.
Si c'est une brique plus une brique plus une brique. Oui.
Que tout le monde ait sa brique chez lui.
Voilà, de fait. Donc voilà, ouais, prévoyez un petit budget de 60-65 euros. Et si vous voulez rajouter là-dessus un disque dur externe de 25 000 teras, libre à vous, évidemment. Mais ça, c'est votre customisation personnelle. C'est pas le service propre.
Mais il y a un service après-vente.
Oui, oui, oui.
Mais comme tu disais, par exemple, BXLUG.
Mmh. Voilà, il y aura ça, plus le Neutrinet va aussi organiser des après-midi festifs pour bien prendre en main cette brique et découvrir les effets potentiels d'hébergement de documents, de multimédia en Wi-Fi.
Oui, et puis on est une association, vous êtes des membres d'une association, donc ça fait une communauté en fait. Donc il y aura plein de gens à qui vous pourrez poser des questions, vous pourrez apprendre vous-même et aussi d'autres personnes. C'est vraiment un rapport qui est différent.
Voilà, et donc, autre bel endroit très communautaire et très associatif pour découvrir la brique, ce dimanche dès 14h, ce sera donc la Poissonnerie, grand endroit récupéré de main de maître par un groupement humain à haute chaleur garantie. C'est au 214 de la rue du Progrès, c'est du côté de Skerbeek, c'est juste à côté du chemin de fer, c'est au bout de la gare du Nord. Il y a moyen d'y arriver par le tram 93, le 25, il y a le 55 qui passe par là, il y a le 0, il y a le 3, il y a encore des bus, mais j'ai oublié leur numéro. Et sinon, voilà, oui, de 214 du Progrès à la Poissonnerie.
Et vous pouvez aussi trouver des informations sur Neutrinet, sur neutrinet.be, et vous pouvez trouver des informations sur la brique internet, sur labriqueinter.net.
Je la trouve très drôle, l'adresse. Quand je l'ai tapée, j'ai trouvé ça très drôle. Bref.
Voilà, ouais,
je m'amuse avec peu.
Labriqueinter.net. La brique internet. Ben, merci Laurent d'être venu nous mettre ça dans l'oreille. Enfin, voilà.
Merci de m'avoir accueilli.
Tous ces vendredis soirs où on disait elle arrive, elle va bientôt arriver, elle va bientôt arriver.
Et c'est dans le Midi Express qu'elle est arrivée.
Ouais.
En tout cas, c'est super intéressant. Et ça, voilà, c'est à faire connaître au plus grand nombre, à mon avis.
Mm-hmm. C'est ce qu'on essaie de faire.
On est
bonne
là
idée.
Pour ça, certes. Merci pour l'agenda culturel numérique.
Avec grand plaisir. Ça change un peu. Bah oui, carrément.
Voilà, oui, il n'y a pas de place à offrir parce que l'entrée est gratuite pour dimanche 14h, la Poissonnerie. Belle ambiance sur place en tout cas. Voilà.
Eh bien, merci à vous et à très bientôt alors.
Yes,
un plaisir.
Belles aventures.